Chapitre 44. Néo. Alix et Zizo levaient les yeux, incrédules. Zizo continuait de braquer sa lampe laser sur le linteau à l'entrée de la galerie, éclairant les mots gravés sur la poutre de bois. « Arrête, c'est ici l'Empire de la Mort. » « L'Empire de la Mort », lisait et relisait Zizo dans sa tête. Ils avaient trouvé. Jamais ils n'avaient abandonné. Ils étaient enfin récompensés. Alix et Zizo avaient continué d'explorer les galeries du Grand Réseau Sud depuis des semaines, notant systématiquement les souterrains qu'ils empruntaient, traçant sur un plan chaque tunnel, chaque impasse, chaque cave. Au total, depuis la veillée du sanctuaire, ils avaient arpenté plus de 260 kilomètres de galeries, persuadés que le laboratoire était là, forcément, quelque part. L'Empire de la Mort, au plus profond de la Terre et au plus haut de la lumière. Et ce matin, ils avaient découvert cette phrase à l'entrée d'une galerie. « Arrête, c'est ici l'Empire de la Mort. » Quelqu'un dans le monde d'avant s'était amusé à adresser aux visiteurs des catacombes cet avertissement. Ça ne pouvait pas être une coïncidence.
« C'est ici, » dit Zizo. « C'est forcément ici. »
Alix se jeta dans ses bras et l'embrassa. Ils avaient tant de fois hésité à abandonner leur quête, à rejoindre Akan, Lunella, Liyu et les Forces Libres, à participer eux aussi à la préparation de cette guerre de libération. Mais ils s'étaient promis d'explorer jusqu'au dernier mètre de galerie.
« On dirait bien !»
fit Alix en écarquillant les yeux. La lampe laser éclaira les ténèbres au-delà de l'avertissement. Le faisceau lumineux ne réveillait que des os, des crânes, par milliers, empilés, plus nombreux encore que dans les autres souterrains qu'ils avaient visités. On aurait presque pu croire qu'une foule de squelettes s'était déplacée jusqu'à cette galerie, et obéissant à l'ordre gravé, s'était effectivement arrêtée pour l'éternité.
« Et il est où ce labo ?» demanda Zizo. « À part des crânes, je ne vois rien. »
Ils explorèrent les environs du linteau et ne découvrirent qu'une succession de nouvelles galeries. Des tunnels à perte de vue, des murs de fémurs et de tibias, des plafonds de phalanges crochues accrochant leurs cheveux, des sols de cervicales et de vertèbres craquant sous leurs pas.
« C'est écrit pourtant !»
s'agaça Zizo en levant encore la tête vers la poutre. « Arrête ! Ça veut donc dire que l'on entre quelque part ?»«
Oui, dans l'Empire de la Mort. » « Et le labo, alors ? Les éprouvettes ? Les livres ? Les ordinateurs ? Les tables ? Les chaises ? Tu ne vas pas me dire que les plus grands scientifiques du monde travaillaient dans ces couloirs au milieu des squelettes ?»
Alix prit le temps de réfléchir. Elle explosa soudain, traversée par une intuition.
« Ce mot, arrête ! C'est ici l'Empire de la Mort ! C'est une porte d'entrée !»
« Merci, j'avais compris. Et si tu franchis une entrée dans l'autre sens, ça devient quoi ?»«
Une sortie ?»«
Eh oui ! Nous sommes devant l'une des anciennes entrées et sorties des catacombes, j'en suis certaine. C'est pour cela qu'il y a plus de crânes ici qu'ailleurs, et qu'ils sont mieux rangés. Les touristes du monde d'avant ne devaient pas se perdre dans 300 kilomètres de galeries, on devait leur en montrer qu'une toute petite partie. Ici. »«
Ok, je te suis. » Et alors ?
Et alors ? Je suis prête à parier que juste au-dessus de ce linteau, il y a une porte, un escalier ou un puits. Et peut-être que le labo est là-haut.
Au-dessus de nos têtes ? Au plus haut de la lumière ?
Viens !
Alix attrapa la main de Zizo. La lampe laser fouilla encore l'obscurité et ils découvrirent sans peine un escalier. Des vieilles affiches déchirées, visiter les catacombes de Paris, le plus grand ossuaire souterrain du monde, leur confirmèrent que l'intuition d'Alix était la bonne. La porte d'entrée des catacombes se trouvait ici, jadis, et le message « Arrête, c'est ici l'Empire de la Mort » avait été écrit par un certain Jacques Delisle, à partir d'un poème grec, pour impressionner les visiteurs. Après avoir grimpé un peu plus de 100 marches, ils poussèrent une porte de bois moisi et se retrouvèrent à l'air libre. Devant eux s'étendait un vaste carrefour, semblable à des dizaines d'autres dans la ville.
Où on est ?
Aucune idée. Zizo essaya de se repérer à la flèche du tipi, À l'église blanche et à l'impressionnante statue de bronze posée au milieu de la place, un lion majestueux paraissant prêt à bondir sur les passants. Après un temps de réflexion, il parvint à déterminer qu'il se trouvait au sud de la Seine, près du M d'Enfer Rochereau.
« Et c'est quoi ça ?» insista Alix.
Elle désignait du doigt le bâtiment le plus proche, entouré d'un parc transformé en jungle. Il était construit dans le même style que la plupart des autres monuments de la ville, murs massifs, pierres blanches et fenêtres élégantes, mais son originalité résidait dans l'étrange coupole qui le surmontait, un grand dôme, bâti dans une matière futuriste, blanche, presque transparente. De loin, cet immense champignon posé sur le toit ressemblait à une bulle de papier, mais il avait pourtant parfaitement résisté à l'usure des années.
« Aucune idée, » répéta Zizo.
Ils approchèrent et lurent le nom du bâtiment sur une plaque dorée. « Observatoire de Paris. »«
Par Marie-Lune !» s'écria Alix. « L'observatoire ! J'ai appris ça dans mes livres d'histoire, c'est l'un des plus anciens laboratoires du monde. C'est ici que l'on a commencé à observer les étoiles, avec les premiers télescopes, il y a près de 4 siècles, en réunissant les plus grands astronomes de l'époque.
« Au plus haut de la lumière !» récita Zizo.
« Construit juste au-dessus de l'entrée des catacombes !» rajouta Alix. « Au plus profond de la Terre !»«
Et c'est ici ? C'est forcément ici ?»
Ils poussèrent la grille qui, bien que fermée depuis des années, s'ouvrit sans problème et sans grincer. Ils se faufilèrent à travers le parc dévoré par les noisetiers, les ronces et les fougères. Cette fois encore, ils ne rencontrèrent aucune difficulté pour avancer. Même si personne n'avait dû s'aventurer dans ce jardin depuis le passage du nuage, les plantes et les branches semblaient ne pas avoir osé recouvrir le sentier principal et ils purent accéder à l'entrée principale avec une facilité déconcertante. Ils posèrent leurs mains sur la porte de bois, persuadés qu'elle s'ouvrirait aussi simplement devant eux que la grille de fer ou les arbres du parc.
« Attention !» firent-ils en chœur. « 1, 2, 3 !»
Ils poussèrent. Et comme ils s'y attendaient, la porte n'offrit aucune résistance. Les deux battants s'écartèrent. Les deux ados en eurent le souffle coupé. La grande salle devant eux ressemblait à un fabuleux musée. Lambrissé du sol au plafond, d'un bois aussi verni que celui de la coque d'un bateau, elle était remplie d'instruments complexes et poussiéreux.
« Là, un sextant !»
expliqua Alix, excitée en désignant un triangle à balancier.
« Là !»
Elle montrait un tube de cuivre piqueté de rouille.
« Un télescope grégorien, les tout premiers jamais inventés !»« Là !»
elle fit tourner un curieux globe terrestre en fer.
« Une sphère armillaire !» Oh là ! Incroyable, un astrolabe !
Zizo peinait à s'intéresser à ces objets de cuivre, de fer et de verre. Non seulement il ignorait à quoi pouvaient servir ces instruments, mais surtout, ce décor de musée ressemblait un peu trop à une vitrine pour touristes. Une façade en trompe-l'œil pour empêcher de regarder ailleurs. Tournant le dos aux vieux outils d'astronomie, il explora plus en détail la pièce et finit par découvrir, derrière une porte banale, un escalier de service. Espace privé, ne pas entrer. Un sens interdit était accroché à la balustrade, afin de faire rebrousser chemin aux touristes égarés. Le cœur battant, Zizo gravit quelques marches, attiré par un discret panneau accroché à hauteur du premier palier de l'escalier. Unité de thermodynamique ondulatoire et de prévention des interactions épidémiologiques.
« J'ai trouvé Alix !»
hurla Zizo.
« Utopie ! C'est ici !»
La salle du second étage n'avait rien à voir avec celle du premier. En 15 marches, ils avaient franchi plusieurs siècles de progrès scientifique. La pièce, aux épais murs de marbre blanc, ressemblait cette fois à un laboratoire moderne, du moins tel qu'il se l'imaginait. De longues rangées d'ordinateurs, des écrans géants accrochés au mur, des étagères de verre contenant des pierres et des cristaux multicolores, un coin bibliothèque, de grandes armoires de fer. Le soleil pénétrait par la principale fenêtre et suivait la ligne d'un fil de laiton, bizarrement encastré dans les dalles du sol.
« Au plus haut de la lumière !» répéta une fois encore Alix. « L'observatoire a été construit pour que l'ancien méridien de Paris passe exactement au milieu du bâtiment. C'est ce que représente ce trait de fer sous nos pieds.
De Méri quoi ? Demanda Zizo tout en évitant de marcher sur le fil de métal brun.
Le méridien ! Une ligne imaginaire reliant le pôle sud au pôle nord, si tu préfères. Mais là, je te parle du méridien zéro, le premier à avoir permis de calculer la hauteur du soleil par ce trou, le gnomon.
Zizo remarqua une petite ouverture circulaire dans le mur de l'observatoire, à une dizaine de mètres de hauteur, et se demanda si c'était ce dont Alix voulait parler.
C'était le système astronomique le plus perfectionné du monde, continuait l'ancienne reine. Il a permis de définir la plupart des unités de mesure universelles, le mètre, le gramme, la seconde.
Zizo avait du mal à partager la passion de son amoureuse pour ce fil de fer, ne comprenant rien à ces termes dont il entendait parler pour la première fois. Méridien, gnomon, unité de mesure universelle. Il essaya d'appuyer sur les claviers des ordinateurs, mais rien ne se produisit. Les écrans au mur paraissaient définitivement muets. Et il ne comprenait même pas le titre des livres qu'il prit au hasard dans la bibliothèque. « Des révolutions des sphères célestes. » L'origine des espèces, Relativity, le chat de Schrödinger. Le laboratoire Utopie était abandonné. Qu'avait-il espéré y trouver? Une lettre d'excuse des apprentis sorciers, Marie-Lune, Pierre Sol, et sans doute quelques autres adultes, tous ceux qui avaient provoqué la fuite du nuage mortel? Ils avaient eu le temps de faire le vide depuis. C'était il y a si longtemps, plus de 16 ans.
Dire qu'on court après ce labo depuis des mois, fit Zizo. Et maintenant qu'on l'a trouvé, on ne sait toujours pas quoi chercher.
Alix continuait de suivre son fil de laiton. Aux yeux de Zizo, il paraissait pourtant aussi passionnant qu'une corde à linge.
Ne sois pas impatient, positiva-t-elle. Il reste l'étage le plus intéressant, le dernier, ce dôme de papier mâché qui domine les toits de Paris, la coupole d'Arago, d'après mes souvenirs.
Elle leva la tête vers la fenêtre de l'observatoire et fixa le gnomon, évaluant à quel moment les rayons solaires passeraient précisément dans le trou. Un peu déçue que le soleil ne soit pas encore au zénith, elle délaissa les instruments de mesures astronomiques.
« Ok, tu as raison. Pourquoi traîner ici? On monte au dernier étage ?»« Non, attends !»
Alix, surprise, se tourna vers le garçon. Il avait ouvert l'une des armoires de fer et en avait sorti un épais dossier jaune.
Attends, répéta Zizo, je crois que j'ai trouvé quelque chose.
Il posa le dossier sur le bureau le plus proche. Alix s'approcha en sautant avec souplesse par-dessus le méridien.
Qu'est-ce que c'est?
Je ne sais pas encore, mais lis le titre. Il inclina le dossier cartonné pour que l'adolescente puisse déchiffrer les mots tracés au marqueur.
Nouvelle évolution originelle? Lut Alix à haute voix.
Zizo posa sa main sur le premier mot pour que n'apparaisse plus que le N, puis sur le deuxième pour cacher toutes les lettres sauf le E, et isola enfin le O.
Néo ?
Balbutia Alix.
Néo ? Oui, Néo. Les trois lettres gravées sur le soleil de fer. Les trois lettres tracées sur la lettre de Marie-Lune à Eugénor. Maintenant, on sait ce qu'elle signifie. Nouvelle évolution originelle.
Alix s'assit à côté du garçon. Ses mains tremblaient. Une chaleur intense l'étouffait. Le bureau que Zizo avait choisi était dans l'axe parfait du gnomon. Dès qu'il serait midi pile, le soleil les grillerait.
Ouvre-moi ce foutu dossier, fit Alix.
Tout de suite, Majesté.
Zizo fit sauter l'élastique qui retenait les documents et tourna la chemise cartonnée. Ils se penchèrent pour lire la première feuille de la pile.
Nom, Andrieu Chang.
Prénom, Liu. Profession du père, ingénieur en génie nucléaire. Profession de la mère, astrophysicienne. Fratrie, Tao, 10 ans. Li Na, 7 ans. Contribution, 2 étoiles. Potentiel, 4 étoiles. Commentaire. Don à l'association médiocre, mais QI très au-dessus de la moyenne. Apport scientifique de premier ordre. Enfant à très fort potentiel. Pavillon préconisé, savant. Une photo des parents de Liu était agrafée au dossier. Ils restèrent un temps infini à regarder le père de Liu, un petit asiatique portant de fines lunettes, un visage rond, les cheveux en baguette, le portrait craché de son fils. Sa mère, à l'inverse, était grande. Son beau visage allongé était encadré d'épais cheveux blonds.
« Par toutes les lunes de Neptune !» bredouilla Alix. « Tout est là ! Tout est là !»
Cette fois, elle sentait son corps s'embraser, et l'éclat du soleil dans le gnomon n'y était pour rien. Pendant toutes ces années, elle avait refusé d'y penser. Elle avait refusé d'en rêver, même si c'est ce qu'elle désirait le plus au monde. Tout était là, dans ce dossier. Le nom de leurs parents, leur visage, leur métier, le prénom de leurs frères et sœurs. Allait-elle accéder à cette vérité inespérée? Savoir qui elle était? Tout était là, une fiche pour chacun d'eux. Elle en était persuadée. Le dossier était épais. Zizo tourna sèchement la page suivante. Nom Armani, prénom Django, profession du père, président fondateur de la chaîne de restauration V2F2, Very Very Fast Food. Profession de la mère, sans profession. Fratrie, 100. Contribution, 5 étoiles. Potentiel, 1 étoile. Commentaire, don à l'association maximale. Niveau d'exigence des parents élevé. Environnement familial de faible qualité. Niveau d'intelligence de l'enfant très bas, à surveiller. Pavillon préconisé, soldat. C'est bon ? Demanda Zizo. Alix hocha la tête.
Pas sûr que ce soit une bonne idée de faire lire ça à Django, ajouta Zizo.
Parce qu'il sait lire ?
Ils échangèrent un sourire. Zizo feuilleta d'autres fiches. Alix les parcourait avec un mélange de fascination et de distraction. Les parents de Soutim étaient chanteurs d'opéra. Moebia avait deux mamans, médecin, mais pas de papa. Leonarda était la benjamine d'une famille de 6 enfants. Ils étaient déjà parvenus à la lettre C, et à chaque nouvelle feuille retournée, une nouvelle décharge électrisait la colonne vertébrale de l'adolescente. Par quelle lettre commençait son nom de famille? D, H, P, Z? Le visage de ses parents apparaîtrait-il à la prochaine page? Jamais depuis qu'elle était née, elle n'avait éprouvé des sensations d'une telle intensité. Zizo tournait les fiches, mécaniquement, mais de plus en plus rapidement, jusqu'à ce que sa main reste suspendue en l'air. Nom, Hamilton. Prénom, Alix. L'émotion était trop forte. La chaleur qui enveloppait Alix était telle qu'elle faillit s'évanouir. Ses yeux refusaient de lire, floutaient la page devant elle. À côté d'elle, Zizo se leva doucement.
« Je te laisse ?» fit-il. « Je crois que tu as besoin d'être seul avec eux. » La voix du garçon sonnait creux, sans animosité ni affection, comme s'il se forçait à mettre le maximum de distance entre ses fiches et lui.
Alix tenta de lui attraper la main, mais elle glissa entre ses doigts. Zizo lui accorda un sourire triste.
« C'est le plus bel instant de ta vie ?» dit-il. « Alors, ne le gâche pas ?»
L'adolescente, noyée dans son euphorie, réalisa seulement alors ce que Zizo ressentait. Le projet Néo ne concernait que les enfants du château, pas ceux du tipi. Ce dossier ne contenait aucune fiche au nom de Zizomis, pas plus qu'au nom d'Akan ou Daniel, les orphelins de Paris, comme eux, mais nés de père et de mère inconnus.
« Et ?» demanda Alix. « Et toi ?»«
Moi, je suis heureux pour toi. »
Zizo s'éloigna vers l'armoire de fer. Alix le regarda une seconde, puis ne put résister et baissa les yeux. Zizo avait raison. C'était le plus beau moment de sa vie. Profession du père. Grand reporter à International Planet. Profession de la mère. Nutritionniste à Enfance sans frontières. Fratrie. Amy, 3 ans. Contribution, 2 étoiles. Potentiel, 3 étoiles. Commentaire. Don à l'association moyen. Intelligence de l'enfant, correct. Atout principal du dossier, Engagement caritatif des parents. Pose beaucoup de questions sur Néo. Conviction très marquée. Sans leur amour pour leur fille, aurait refusé de participer. Pavillon préconisé. Éviter le pavillon des singes. Les larmes d'Alix coulaient en cascade. C'était trop d'informations. Trop pour son petit cœur de 16 ans. Ses parents, grands reporters, enfants sans frontières. Sa mère et son père étaient de belles personnes, elle le savait. Elle le savait, évidemment. Elle, blonde, et lui, le crâne sans un cheveu. Lui, une petite barbe délicate, et elle, une jolie mèche bleue, si bien assortie. Tellement heureux. Sans leur amour pour leur fille, disait l'affiche. Ils auraient refusé de participer. L'amour de leur fille. Ils l'aimaient. Ils l'aimaient tant. Et Amy, 3 ans, sa grande sœur, dont elle ne connaîtrait jamais le visage. Était-elle encore vivante quand Alix était née? Et son père? Et... Tiens, fit Zizo en posant une main sur son épaule. C'est pour toi. Il déposa sur le bureau un nouveau dossier cartonné. Le logo Néo était inscrit en haut à droite et un nom inscrit sur une étiquette. Alix Hamilton. Ces fiches ne sont que des résumés, glissa Zizo. Il y a un dossier complémentaire pour chaque enfant du château dans l'armoire de fer. Merci. Zizo était déjà reparti. L'élastique sauta. Alix ne contrôlait plus ses doigts. La chemise s'ouvrit, trop vite. Et une dizaine de photos glissèrent du dossier. Derrière ses yeux brouillés de larmes, elle distingua les silhouettes floues d'une famille. Une famille de 4. Amy la portait dans ses bras dans la chambre d'une maternité, où lui tendait un hochet à travers les barreaux d'un parc pour enfants, sous le regard de papa. Puis d'une famille de 4, tous posaient dans la rue devant un Père Noël, sans doute le jour de la veillée du sanctuaire, le dernier Père Noël de l'humanité. Puis d'une famille de 3, papa et maman et elle, dans ses bras, debout devant une petite tombe. Il neigeait. Alix pleurait.
« Je vous aime, »
murmurait-elle.
« Je t'aime, papa. Je t'aime, Amy. Je t'aime, maman. »
Elle ouvrit complètement la chemise cartonnée. D'autres photos, d'autres lettres, d'autres souvenirs glissèrent sur ses genoux comme une douce pluie de mélancolie. Zizo s'était assis à 3 bureaux de distance. Il avait récupéré le dossier jaune et feuilletait les fiches résumées. Il s'efforçait de les lire de la façon la plus détachée possible, simplement guidé par un sentiment de curiosité, un peu ridicule, un peu malsain, pour ne pas se laisser submerger par d'autres émotions bien plus destructrices, la colère, la jalousie, la justice. Les parents d'Isalis Montorgueil étaient de riches collectionneurs d'art, dont maximale, intelligence supérieure, exigence absolue qu'elle soit placée chez les singes. Les parents de Lunella et Solario Necros étaient eux aussi très riches, dont d'une valeur exceptionnelle à l'association Néo, mais le profil de leurs parents posait question. Le commentaire laissait supposer qu'ils avaient du sang sur les mains, une affaire de cartel de drogue et de milices privées. À surveiller avait été souligné en rouge 3 fois. Curieusement, aucun pavillon n'était préconisé. Jeanne d'Arc Sacré-Cœur possédait un père maréchal de France et une mère au foyer. Don correct, intelligence moyenne. Confidentialité maximale et admission au projet indispensable compte tenu des galons du papa. Pavillon préconisé, soldat, forcément. Valère Vieira de Souza possédait 2 parents professeurs d'université, un père très âgé et une maman qui ressemblait à une étudiante. Savant, évidemment. Zizo continuait de tourner les fiches sans presque désormais les lire. Il se rendait compte que tous les enfants du château possédaient des parents privilégiés, soit très riches, soit très intelligents, soit très influents dans leur domaine, politique, militaire, médiatique, artistique, des gosses triés sur le volet. Il comprenait. Logiquement, quand les ravages du nuage avaient été connus, toutes les familles qui attendaient un enfant avaient voulu le sauver, le faire grimper dans une sorte d'arche de Noé, où on leur assurait que leur enfant serait soigné, chouchouté, éduqué. Mais il n'y avait pas de place pour tout le monde. Dans cette nurserie de luxe du monde d'après l'apocalypse, le ticket d'entrée devait être sacrément élevé. Le soleil de fer avait dû coûter une fortune, tout comme les 12 ans de cours sur vidéo ou le recrutement d'une équipe de psy et de pédiatres survivants. Alors, supposait Zizo, seuls les bébés dont le papa et la maman avaient les moyens de payer ou prouver qu'ils avaient enfanté un surdoué pouvaient entrer. Il resta un moment à méditer sur les conséquences de cet écœurant projet. Plus il réfléchissait, plus un autre mensonge le choquait. Les tests de Marie-Lune, lors des 6 ans des enfants, étaient donc truqués. Une fois de plus, Marie-Lune ne leur avait pas dit la vérité. Ceux du château ne s'étaient pas retrouvés dans l'un des 3 pavillons à cause de leurs résultats scolaires, de leurs aptitudes, mais dans celui que leurs parents avaient choisi. Sans doute avaient-ils reçu une éducation spécifique, selon des valeurs sélectionnées par leurs parents, et leur caractère s'était ainsi forgé, l'arrogance pour Isalis, la tolérance pour Alix, l'obéissance pour Jeanne d'Arc. Alix avait rangé les photos et les lettres, refermé la chemise cartonnée. Elle posa sa tête sur l'épaule de Zizo, les yeux rougis de larmes.
J'avais une grande sœur, Amy.
Une grande sœur, haute comme 3 pommes, une vraie bouille de clown du haut de ses 3 ans. On avait l'air de former une famille heureuse. On habitait dans un appartement, apparemment, où on voyageait très souvent. Du moins, papa et maman, et Amy, évidemment. Il y a des photos d'eux devant Big Ben, devant le Colisée aussi, et la Sagrada Familia. J'aurais tant voulu les connaître.
Zizo, presque sans bouger, continuait de tourner les dernières feuilles devant lui. V. W. Alix s'arrêta de parler et observa son amoureux de profil, concentré sur les fiches, visage fermé.
Je suis désolé. Ne le sois pas. Tu n'y es pour rien.
Les yeux du garçon continuaient de glisser sur les fiches. Profession du père, profession de la mère, fratrie.
Et toi, tu ne connais rien de ta famille. Ça m'évite de souffrir.
Elle l'embrassa sur la joue.
Ça ne fait pas souffrir.
Zizo se retourna enfin. Il embrassa ses yeux rougis, buvant les larmes d'Alix à petite lapée de chaton.
Je suis heureux pour toi, vraiment.
Il se força à sourire.
Tu as vu, dans ce château, Maman Luna n'a retenu que des gosses de riches, des familles de snobs, d'ambitieux, de crâneurs. Mais tes parents étaient différents.
Merci.
Elle s'abandonna contre la poitrine de son amoureux.
On a la vie devant nous, Zizo. Alors on trouvera, je te promets, on trouvera qui étaient tes parents.
Et combien tu avais de frangines et de frangins, et même de cousins. On découvrira celle d'Akane aussi, et Daniel, de Chrysanthe et de Vanille.
Si tu le dis.
Zizo continuait de faire des efforts démesurés pour que le sourire sur son visage ne s'efface pas comme un arc-en-ciel derrière le premier nuage.
Les parents Daniel, fit-il, étaient sûrement des aviateurs. Ceux de Vanille, des petits comptables maniaques.
Et les miens,
des espions internationaux, affirma Alix. Des agents secrets, genre James Bond ou Jason Bourne.
Jason quoi?
Quoi, s'amusa Alix. Allez, on ne s'endort pas. Tourne tes fichues pages jusqu'au bout. On est presque à la lettre Z et il nous manque encore quelqu'un.
Sabi, mais pourquoi ne serait-elle pas dans ce dossier?
Il tourna une nouvelle feuille. Non, Van de Fol. Prénom, Sabine.
La voici,
souffla Zizo, soulagé. Alix était restée stupéfaite, bouche ouverte, devant la seule photo accrochée à l'affiche.
Par tous les anges du ciel, c'est pas sa maman, c'est la photo de Sabine.
Zizo se pencha un peu plus vers le cliché. On aurait pu jurer, en effet, que c'était le portrait de Sabi qui avait été agrafé. Mêmes yeux frondeurs, même joli visage ovale, Mêmes cheveux ondulés tombant sur ses épaules et surtout, même âge. Ils détaillèrent la suite de l'affiche. Profession du père, inconnu. Profession de la mère, influenceuse. Fratrie, 100. Contribution, 5 étoiles. Potentiel, point d'interrogation. Commentaire. Don à l'association exceptionnelle. Intelligence de la mère, impossible à évaluer. Enfant qui ne devrait pas poser de problème, du moins jusqu'à l'adolescence. Pavillon préconisé, singe. Zizo se leva pour aller chercher le dossier complet de Sabine Van de Folle. Ils hésitèrent à l'ouvrir. Ces informations appartenaient à la vie privée de leur ami, mais la curiosité fut plus forte. La maman de Sabi se prénommait Charlène. Elle était apparemment une personnalité connue dans le monde d'avant le passage du nuage, suivie sur les réseaux sociaux par des millions d'adolescentes. Une star d'à peine 17 ans. « Ça explique tout ?» fit Zizo. « Tu te souviens de la dernière phrase de Jacques ?»« Vous lui ressemblez beaucoup. » Comme s'il avait déjà vu Sabi. C'est sa maman qu'il connaissait, comme la plupart des gens d'avant.
Oui.
Et elle avait sa propre marque. Charlène 17, habit, maquillage, parfum. Le parfum que Jacques lui a offert. Le parfum de sa mère. Son seul souvenir d'elle.
Waouh! Elle était si jeune. Tu te rends compte? Charlène avait notre âge.
Comment Sabi va-t-elle réagir? Sa mère est comme sa jumelle, aussi belle qu'elle. Et Alix continuait de feuilleter le dossier. Charlène était une belle personne aussi. Apparemment, elle était reconnue pour son engagement contre les maladies incurables, pour l'écologie et l'aide aux enfants pauvres partout dans le monde.
Apparemment, commenta Zizo avec une pointe d'amertume. Mais ça ne l'a pas empêché de dépenser une fortune pour placer au château sa petite fille chérie.
Comme mes parents, répliqua Alix. Mes parents aussi ont payé pour que je sois protégée.
C'est vrai, admit Zizo. Je suis désolé.
On aurait tous fait pareil, justifia Alix.
Le regard du garçon se troubla.
Je ne sais pas.
Si, affirma Alix sûre d'elle. Et on refera pareil si l'occasion se présente. Si la Terre est sur le point d'exploser, qu'il n'y a qu'un nombre de places limitées dans une fusée et qu'on a les moyens de payer le billet, on n'hésitera pas, on sauvera notre gosse.
Ne dis pas n'importe quoi.
Pourquoi n'importe quoi? Tu ne veux pas avoir d'enfant avec moi?
Zizo sursauta, piqué au vif.
Bien sûr que si. J'en veux au moins 10. De quoi remplir toute une navette spatiale. On a intérêt à commencer à économiser, mais...
Il redevint brusquement sérieux.
La Terre a déjà explosé une fois.
Ça n'arrivera pas une seconde fois. Ce nuage, c'était...
Un accident, Jacques nous l'a confirmé, provoqué par des apprentis sorciers.
Zizo avait tourné la dernière page du dossier.
Eux.
Non. Zarkis, prénom, Ogénor. Profession du père, docteur en épidémiologie. Profession de la mère, directrice de recherche en physique thermodynamique. Fratrie, Céleste, 1 mois.
C'est Marie-Lune, fit Alix en observant la photo agrafée à l'affiche. Impossible de ne pas la reconnaître.
Et lui, fier seul, ajouta Zizo. Impossible de se tromper. Leurs noms sont écrits sur les clichés.
Cette dernière fiche était un peu différente des autres. Le nom des parents était mentionné sur la photo, Marie-Lune et Pierre Sol Zarkis, mais aucun commentaire n'avait été ajouté.
Normal, réfléchit Alix.
On sait que Marie-Lune et Pierre-Sol sont à l'origine de ce projet. Néo, qu'ils ont dû monter dès qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient fait une boulette en laissant sortir ce nuage. La moindre des choses était de réserver 2 places dans ce château pour leurs jumeaux, avant que Pierre-Sol ne change d'avis et ne récupère Céleste, autrement dit, Luponera.
Et Alix prit le temps d'observer le visage familier de Marie-Lune, puis celui de Pierre-Sol. Un profil banal d'homme de 30 ans, des yeux clairs, qui tranchaient par rapport aux yeux noirs de sa femme, des cheveux ras, une barbe courte, un cou étranglé par une cravate trop serrée. Zizo, à l'inverse, se concentrait sur le bas de l'affiche. Le front crispé, il posa son doigt sur la feuille et suivit la dernière ligne, celle qui figurait sur chaque fiche et dont il ne s'était pas soucié jusqu'à présent, la signature du contrat.
Chaque feuille était datée et signée, avec la mention « Bon pour accord ». Le garçon consulta rapidement d'autres fiches pour observer les autres signatures, puis revint à celle d'Eugénor.
« Qu'est-ce qu'il y a ?» s'inquiéta Alix. « La signature. Regarde la date. »
L'adolescente lut facilement les chiffres tracés à la main.
« Le 6-12 ?»«
Exact. Et toutes les autres fiches, je viens de vérifier, ont été signées entre le 26 décembre et le 14 janvier. »«
Et alors ?»
demanda Alix, qui refusait de comprendre l'évidence.
« Et alors ? Nous savons que le nuage mortel est passé sur la Terre entre le 21 et le 25 décembre. Il est logique que les familles, paniquées, aient signé ce contrat le plus rapidement possible ensuite pour confier leurs futurs enfants au projet Néo. Mais... »
Sa voix se lézardait et le monde autour de lui aussi.
« Mais... » poursuivit Zizo. « Comment Marie-Lune et Pierre Sol pouvaient-ils être au courant, le 6 décembre, que le nuage allait s'échapper? Comment pouvaient-ils avoir imaginé le projet Néo avant que ne se produise le passage du nuage? »
Alix paraissait hypnotisée par la date de la signature au bas de l'affiche. Le soleil, presque à son zénith, se faufila par le gnomon et la fusilla plein front. Zizo la saisit par les épaules et l'éloigna du rayon. Il la fixa droit dans les yeux, alors que les siens brillaient d'une fureur sans précédent.
« Cela prouve que Marie-Lune et Pierre Sol étaient au courant, avant, et donc que le passage du nuage n'était pas un accident !»